Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's
one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous, Eric Mandela Kiza avec vous sur la voie de l'Amérique, mettant depuis Washington DC. Michel Claire Joseph assure la mise en onde. Et ce soir, nous parlons de la nouvelle approche américaine à nos militaires contre le terrorisme en Afrique. Washington a dévoilé un document d'orientation qui annonce une refonte de sa politique en Afrique subsaharienne. Les États-Unis entendent contrer la présence russe et chinoise et développer notamment des approches non militaires contre le terrorisme. Cette nouvelle stratégie reconnaît l'importance démographique croissante de l'Afrique, son poids à l'ONU, tout comme ses immenses ressources naturelles et opportunités. Quel pourrait être l'effet de la nouvelle approche américaine dans la lutte contre le terrorisme en Afrique? Nos invités sont en ligne avec nous pour en parler. À Paris, Nestor Widada Nure, philosophe et écrivain burundais, ses recherches s'intéressent aux problématiques de résolution des conflits et de paix durable. Bonsoir Nestor.
Bonsoir Eric et bonsoir aux collègues.
Toujours dans la ville de Lumière, Seydik Abba du Niger, auteur d'un ouvrage Mali, Sahel, notre Afghanistan en nous. Bonsoir Seydik.
Bonsoir Eric, bonsoir à nos invités et bonsoir à vos auditeurs.
Je signale que vous êtes également journaliste.
Tout à fait, c'est exact.
Au Sénégal, l'économiste Ibrahima Aïdara, il est actuellement le directeur exécutif par intérim de Siwa. Monsieur Aïdara, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir chers panélistes et auditeurs de la Voix de l'Amérique depuis Dakar, bonsoir.
Bienvenue dans l'Amérique et vous. Seydik, je commence avec vous. Vous l'avez suivi, Washington a été beaucoup critiqué sur son implication dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pourquoi et que pensez-vous de la nouvelle stratégie annoncée à marge de la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken?
La tradition américaine de lutte contre le terrorisme privilégie l'approche bilatérale. Les Américains, par exemple, ont estimé qu'il n'était pas nécessaire que la force conjointe, celle du G5 Sahel, soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des relations entre, par exemple, les États-Unis et le G5 Sahel en tant qu'entité qui regroupe les 5 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Eux, pour eux, le plus efficace en matière de lutte contre le terrorisme, c'est les approches bilatérales. Ils accompagnent le Niger dans la montée en puissance de son armée, des unités antiterroristes. Ils fournissent l'équipement. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, en octobre 2017, 4 soldats américains ont été tués à Tongo-Tongo, qui est dans la zone de trois frontières, au cours d'une patrouille entre les bérets verts américains et une patrouille américaine. Donc, leur approche a toujours été bilatérale. Et là, ils proposent, au-delà de la question sécuritaire, d'intégrer les autres composantes, à savoir la question du développement, la question de la gouvernance. Et pour moi, ce changement de paradigme est prometteur. Parce que, à mon avis, et comme je l'ai écrit dans l'ouvrage que vous avez cité, une des raisons de l'échec de la lutte contre le terrorisme au Sahel, c'est d'avoir privilégié le tout sécuritaire et militaire. On a pensé qu'on peut lutter, on peut écraser la menace terroriste au Sahel en misant sur l'achat des drones, en misant sur l'équipement, en misant sur l'augmentation des effectifs. Et on a délaissé toutes les autres composantes, à savoir la question du développement, la question de la gouvernance, la question de la justice. Aujourd'hui, que les Américains promettent qu'on amène les autres volets pour construire une réponse holistique qui va au-delà de la question sécuritaire et militaire, me semble être prometteur, mais on verra ce que ça va donner dans la mise en œuvre.
Nestor, comme vient de le dire Seydik, La réponse militaire a déjà montré ses limites. La nouvelle approche américaine non militaire est-elle finalement la plus appropriée? C'est l'avis de Seydik. Et comment stopper l'extrémisme religieux violent en Afrique?
Je pense que, comme vient de le dire Cédric, il faut une approche holistique. L'approche purement militaire, sans prendre en compte la dimension économique, la dimension l'éducation et la capacité, y compris des États aussi, de lutter contre les groupes islamistes en créant une armée qui est capable d'être présente sur toute l'étendue du territoire et vouée à l'échec. Effectivement, cette approche holistique n'est pas mauvaise. Il faudra y prendre le temps de l'évaluer d'ici quelques années. Mais il est aussi très important de souligner le fait que ces questions de sécurité, notamment militaire, à un certain moment, doivent revenir aux États, c'est-à-dire doivent revenir aux différents pays qui sont frappés par le terrorisme. Parce que justement, un des problèmes du continent africain aujourd'hui, c'est que les pays du Sahel, comme d'autres pays africains, leurs armées ont été mises en grande difficulté par ces mouvements, justement, islamistes. Voilà, donc l'approche holistique est la bonne. Il faut suivre justement pour voir comment cela va se passer sur le terrain.
Monsieur Aïdara, comment vous évaluez l'évolution du conflit djihadiste au Sahel au niveau de Ossiwa?
Merci Eric. Je voudrais soutenir la thèse des deux panélistes précédents sur, disons, les faiblesses de la politique américaine en matière de sécurité en Afrique. Et du point de vue de Ossiwa, nous pensons justement que les questions sécuritaires ne sont pas dissociées aux autres questions sociales, politiques et économiques dans la région, sur le continent. Autant on est en train de dire qu'on est en train d'investir dans la sécurité, autant il y a une croissance de l'insécurité dans la région. Ce qui fait qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème d'efficacité dans les stratégies qui sont multiples, qui ne sont pas coordonnées. Et donc, pour nous, les grands acteurs qui sont dans la région probablement font même partie du problème, du fait de la non-coordination et de l'incohérence de leur approche et du passage à côté des véritables questions qui, disons, alimentent l'insécurité. Je pense que vous avez dit dans votre introduction, cette région est une région qui est pleine de potentialités, qui est pleine de ressources, aussi bien des ressources naturelles, des ressources humaines, etc. Malheureusement, c'est la région qui est la plus pauvre au monde. Ceci est véritablement un vivier qui alimente l'insécurité, qui incite les jeunes et les femmes dans ce mouvement d'insécurité, dans ce mouvement terroriste dans la région. Et que donc, il faut saluer probablement le changement de paradigme de politique sécuritaire dans la région. Encore faudrait-il que tous les éléments soient mis en place pour véritablement produire les résultats attendus.
Justement, où est-ce que vous situez le malaise de fond dans ce conflit djihadiste au Sahel, sans revenir sur des points que vous venez de citer?
Le fond, il y a plusieurs questions. Les questions de gouvernance, dans un premier temps, pour nous, constituent un grand problème. Les questions d'exclusion constituent un grand problème. Le fait que les ressources disponibles qui appartiennent aux communautés soient exploitées sans que les communautés se reconnaissent dans cela est frustrant et alimentant. Monte les sécurités. Le fait que les populations soient exclues des processus de formulation de politiques publiques, de leur mise en œuvre, qui prennent en compte leurs intérêts, est aussi une source de frustration qui alimente les conflits. Et finalement, toutes ces questions de gouvernance et d'efficacité des politiques publiques font qu'aujourd'hui, avec l'accroissement de la pauvreté et des inégalités, pour nous, est un facteur très déterminant de l'insécurité dans la région. Bien entendu, il y a d'autres facteurs, mais pour nous, ça, c'est un véritable problème qui alimente l'insécurité dans la région.
C'est dit que comment ce problème de gouvernance se transforme finalement en conflit djihadiste?
Oui, en fait, l'excursion djihadiste au Sahel a trouvé un terreau favorable du fait de la pauvreté. Et parmi les facteurs d'embrigadement des jeunes dans les mouvements terroristes, il est apparu que la dimension idéologique et la dimension religieuse est très marginale. Ce sont les autres dimensions qui sont les plus importantes, le terreau favorable, qui est par exemple le manque d'emploi de jeunes. Pour $50, pour €75, pour 100 000 francs CFA, vous pouvez embarquer un jeune dans une aventure djihadiste. Maintenant, à cela est venu s'ajouter la question de l'absence de gouvernance. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans le Sahel, il y a une raréfaction des ressources. L'accès à l'eau, l'accès aux terres de pâturage, ça devient un problème. La démographie augmente et Blinken a dit que la dimension démographique devait être prise en compte. Donc, ça crée des conflits entre les éleveurs, par exemple, et les agriculteurs. Et ces conflits, du fait de l'absence de gouvernance, d'en face d'une bonne justice, ne sont pas réglés du tout, ou lorsqu'ils sont réglés, ils sont mal réglés, parce que la justice n'est pas une justice adaptée. La justice est corrompue souvent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, ça crée des frustrations qui se transforment elles-mêmes en révolte contre l'État et qui se transforment elles-mêmes en adhésion à des groupes djihadistes qui, eux, promettent la justice qui est promette. Donc, voilà un premier élément. Un deuxième élément qui peut montrer comment la gouvernance alimente, c'est la corruption. Lorsque l'argent public qui devait servir à assurer l'accès des populations aux services essentiels est détourné par des pouvoirs locaux, ça amène les groupes djihadistes à pouvoir remplacer les États, à faire des offres de services sociaux qui peuvent être des facteurs de recrutement. Donc, vous voyez, la corruption peut alimenter le terrorisme et l'absence de l'État peut alimenter le terrorisme. Donc, tous ces facteurs qui sont liés à la gouvernance mis ensemble sont devenus des vecteurs de la montée en puissance des groupes djihadistes dans cette partie du Sahel. Et donc, si on s'en tient seulement à la question militaire, en laissant de côté tous les aspects gouvernance, que ce soit l'injustice, les services, l'accès à l'éducation, tout ça, si on ne met pas ça ensemble, on passe à côté de la solution.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Monsieur Haïdara, le document dévoilé est intitulé « Stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne ». Il détaille 4 objectifs pour 5 ans, notamment travailler au redressement après la pandémie et sur les opportunités économiques, soutenir la préservation et l'adaptation au climat et à une transition énergétique juste. Selon vous, comment mettre en œuvre cette stratégie pour qu'elle puisse porter des fruits en matière de sécurité?
Moi, je pense que ces éléments, tels que déclinés dans le document de stratégie, constituent effectivement de véritables préoccupations, de véritables défis pour le continent, qui ont pour nom les questions de croissance inclusive, qui ont pour nom les questions d'emploi des jeunes, quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Abba, et aussi qui ont pour nom ces questions de changement climatique, etc. Cependant, l'énoncé dans un document stratégique et la mise en œuvre peut avoir un gap. Véritablement, il faut que les États-Unis utilisent ces instruments en politique qui sont à sa disposition pour véritablement fouetter une dynamique de partenariat mutuel. Parce que les instruments qu'ils disposent peuvent véritablement s'insérer dans ces priorités, les politiques continentales qui existent pour véritablement développer ce partenariat-là, tel que les politiques industrielles du continent, tel que les politiques commerciales, le AFCFTA. Donc ces instruments-là devraient s'articuler normalement, si elles veulent être efficaces, devraient s'articuler à ces dimensions-là et non pas seulement se limiter, tel que quelqu'un l'a dit dans son intervention, à des relations bilatérales. Parce que, tel que décliné, si elles veulent se limiter seulement à des relations bilatérales, peuvent être très limitées à la fin, générer des inefficacités. Et je pense que, comme on l'a tous dit, les racines du mal, de l'insécurité, du djihadisme révélé par l'étude de Abba, pas seulement les questions de violence, mais essentiellement les questions économiques, de pauvreté, des inégalités. Je pense que si c'est adressé à travers cette politique-là, peuvent contribuer effectivement à une réduction significative de l'insécurité dans la région.
C'est dit que
Washington affiche également la volonté d'endiguer la récente vague d'autoritarisme et de coups d'État militaires en collaboration avec les alliés et les partenaires dans la région pour répondre au recul démocratique et aux violations des droits de l'homme. On sait que le terrorisme au Sahel a commencé dans les années 90 en Algérie, lorsque l'armée a chassé le président Chadli Bendjedid au pouvoir. L'armée algérienne avait pris le contrôle des institutions de l'État pour annuler les résultats des premières élections législatives remportées par le parti islamique FIS. Comment endiguer justement cette situation d'autoritarisme et de non-respect de la démocratie?
Non, c'est important de l'endiguer parce qu'en réalité, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au Mali et même ce qui s'est passé au Burkina, la crise sécuritaire a été aggravée par la crise politique. La question de la gouvernance est venue s'ajouter à la question sécuritaire. Puisque, comme vous savez, au Mali, le président Ibeka a été élu et après, la situation s'est dégradée à partir de 2020 lorsque la Cour constitutionnelle a donné des sièges au parti de Ibeka qu'il n'avait pas gagné dans les urnes. Ça a créé une contestation politique qui a conduit au mouvement du 5 juin, le M5, et c'est le mouvement du 5 juin, ces activités qui ont transformé la crise post-électorale en crise politique qui est venue s'ajouter à la crise sécuritaire. Et c'est ça qui a conduit au coup d'État de août 2021, le premier coup d'État. Et quand on prend au Burkina, on trouve le même chemin. Il y avait déjà une crise sécuritaire à laquelle est venue s'ajouter la contestation du pouvoir par la société civile, par les partis politiques. Donc, il est important que la lutte contre le terrorisme se construise sur un socle démocratique parce que c'est ce socle démocratique qui permet justement de garantir le respect des droits de l'homme, de garantir la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de chaîne pénale pour juger les gens coupables de terrorisme, s'il n'y a pas de gouvernance, si on peut arrêter ses opposants en les accusant de terrorisme, comme on l'a vu dans certains pays où des opposants politiques ont été considérés comme des terroristes et jetés en prison. Donc si on ne construit pas la réponse contre le terrorisme sur un socle démocratique, sur une démocratie, c'est clair qu'on n'obtiendra pas de résultats. C'est important que, justement, on insiste aujourd'hui que les États-Unis, dans un cadre multilatéral avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, puissent participer au renforcement de la démocratie, puissent accompagner la prise de pouvoir par les moyens démocratiques, par les moyens des élections. Cela me semble très important.
Nestor, sur la même question, comment le faire quand on sait qu'il y a maintenant différentes puissances, une offensive de différentes puissances sur le continent et qui n'ont pas la même vision sur cette question démocratique.
Oui, c'est vrai que l'approche de la Chine ou de la Russie n'est pas la même que l'approche américaine et des pays européens. Les pays européens des États-Unis, généralement, ils prennent en compte la dimension du respect des droits humains. C'est important pour ces pays. Et je pense que la volonté affichée de Washington, justement, d'endiguer la vague d'autoritarisme et de coups d'État, va dans le bon sens de l'histoire. Vous savez, il ne faut pas oublier que les élections libres et transparentes sont une aspiration profonde et une revendication majeure en fait des peuples africains. Il faut qu'on se souvienne toujours que beaucoup de pays africains ont conquis leur indépendance par d'abord des luttes, des revendications d'indépendance, de souveraineté, mais que cela est passé par des élections libres et transparentes. Il faut aussi se souvenir que, de la même manière, c'est par les élections libres et transparentes que la parenthèse de l'apartheid a été fermée en Afrique du Sud. Donc, le droit de vote est un droit civique fondamental. Et généralement, c'est une aspiration universelle des peuples. Donc, il s'inscrit en réalité dans presque toutes les constitutions africaines. Donc, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression que cette approche américaine sera un peu facilitée parce que la CEDEAO semble actuellement discuter beaucoup plus des calendriers pour des élections libres et transparentes dans les pays où il y a eu des coups d'État, notamment en Guinée, au Burkina et au Mali. Mais pour d'autres zones, comme par exemple la zone de l'EAC, East African Community, le cas emblématique du Burundi reste vraiment difficile à résoudre. Je dirais que le paradoxe est là, c'est que alors que justement l'Afrique avait réussi grâce d'abord à Nyerere puis à Mandela, faire en sorte qu'il y ait un pacte inter-burundais soutenu par la communauté de l'Afrique de l'Est, par l'Union africaine et par l'ONU, et des accords d'Arusha. Ces accords ont été violés par le parti qui est arrivé grâce à ces accords, d'ailleurs, le CNDD-FDD. Et depuis, on assiste à un désastre humanitaire vraiment sans nom, des centaines de milliers de réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en RDC, et des plus de 9000 prisonniers politiques, une milice qui quadrille le pays, l'extension de cette violence à l'est de la RDC et une résistance armée qui vient justement de cette mauvaise gouvernance, de ces coups d'État qui au Burundi s'est exprimé sous forme justement de violation de la Constitution et des accords d'Arusha. Voilà, donc là aussi l'approche américaine, elle est attendue et il s'agira de voir si elle est capable de mobiliser le East African Community, mobiliser l'Afrique du Sud, la Tanzanie, pour qu'elle remette sur la table le dossier justement des négociations pour la paix au Burundi entre l'opposition et le pouvoir. Voilà, donc il y a il y a du travail, on va suivre tout ça de près.
Monsieur Aïdara, sur la même question.
Je pense que moi je vais me focaliser plus sur la région de l'Afrique de l'Ouest où effectivement il y a une croissance de coups d'État dans la région et qui se tourne en dérive dictatoriale. Actuellement, les pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso sont sous coup d'État vu l'évolution dans d'autres pays avec des manifestations en Sierra Leone et probablement dans d'autres pays, il y a de forts risques. Et les États-Unis, pendant longtemps, étaient plus préoccupés par des aspects pas forcément liés à la démocratie et à la gouvernance et aux droits de l'homme. Donc, je pense que l'attente est que de plus en plus, disons, la coopération entre cette partie du monde et les États-Unis doivent inclure cette dimension-là de la démocratie et des droits de l'homme dans le partenariat pour véritablement contribuer à la réduction de l'insécurité dans la région, mais aussi des risques, des violations graves des droits humains dans le continent.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous sur la nouvelle approche américaine non militaire contre le terrorisme en Afrique. Merci à Ibrahima Aïdara, économiste et directeur exécutif par intérim de 6 mois en ligne depuis Dakar au Sénégal. Merci.
Merci Eric. Et merci chers collègues et à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique. Merci.
Merci à Nestor Udada Anouré, philosophe et écrivain burundais. Ses recherches s'intéressent aux problématiques de résolution des conflits et de paix durable. Merci Nestor.
Merci Eric, merci aux collègues, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis.
Merci aussi à Seydik Abba, auteur d'un ouvrage Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Vous avez écrit aussi d'autres livres sur le terrorisme au Sahel. Merci Seydik.
Merci, ce fut un plaisir de participer à cette émission de grande qualité.
Merci à tous les auditeurs qui ont choisi l'Amérique et vous et VOA Afrique.
Michel Joseph a assuré la mise en onde. Eric Manelakiza au micro. Excellente soirée à vous tous et bon week-end. À la prochaine.